Bonjour à tous, bienvenue sur le 94e épisode de Comics Weekly. Cette semaine, je suis avec Kinghead.
Oui, bonjour à tous.
Et seulement avec Kinghead, puisque Benny, malheureusement, ne peut pas enregistrer avec nous, puisqu'il n'a tout simplement plus de PC pour le moment. Son PC est down, donc voilà, il pouvait absolument pas enregistrer effectivement cette semaine, et on n'avait pas d'autres créneaux pour enregistrer non plus.
Donc on n'aura peut-être pas le quota habituel de sale blague, mais bon.
On va essayer de le remplacer, on va essayer. On commence cette semaine, comme d'habitude, par un petit point sur les news. Nous ferons un petit tour, bien sûr, du côté des sorties de la semaine, et on fera un petit point, en même temps, sur le Free Comic Book Day, quelques-uns des comics gratuits que vous avez pu récupérer, peut-être, samedi dernier. Oui, j'oublie de préciser que nous enregistrons le jeudi 10, hein, nous enregistrons un jour plutôt que d'habitude, puisque d'habitude, nous enregistrons les vendredis, donc voilà. Encore une fois, si jamais une grosse news survient pendant le week-end, entre le moment où on enregistre et où on monte, si on n'en parle pas, c'est tout simplement parce que c'est tombé après l'enregistrement. Au rayon des news cette semaine, eh bien, Kinghead, tu as lu une interview, enfin, tu as écouté une interview.
Oui, alors en fait, une interview très intéressante dans le podcast de Comic Vine, où justement, où il y a James Robinson qui a l'habitude d'être invité là-bas. Et là, oui, en fait, il était interrogé.
C'est un grand pote à eux, hein. C'est surtout un très grand pote à.
Voilà, c'est ça, un gros pote à Sarah et à Jimen.
Il en a de la chance, monsieur.
Et voilà, c'est ça. Et là, c'était un podcast qui était vraiment intéressant parce que c'était le lendemain de la sortie de Earth 2. Et il a répondu à pas mal de questions sur le futur un peu de Earth 2 et avec des choses très intéressantes. Bon, maintenant que c'est sorti, on peut spoiler un petit peu. Donc, il y avait des choses que j'ai trouvées chouettes dans le sens où il a confirmé que Superman était bel et bien mort, mais que sa mort, la façon dont il était mort, c'était vraiment pas anodin. C'était quelque chose qui allait revenir un petit peu plus tard dans le scénario. Donc, pour vous rappeler, il se fait un peu atomiser par les parademons.
Et
ça fait un peu penser à ce qui se passe dans Justice League. On peut comprendre un peu pourquoi maintenant Darkseid voulait absolument récupérer Superman. Et il l'avait ramené sur la planète Apocalypse pour essayer de faire des expériences sur lui. À mon avis, il y a un truc qu'ils essayent de récupérer de l'ADN kryptonien ou je sais pas quoi. Après, il a dit que Wonder Woman n'était pas la dernière des Amazones. Et qu'il allait y avoir une nouvelle Amazon qui allait être sur cette Earth 2. Et dont le pire ennemi sera justement Steppenwolf. Il a aussi annoncé que Mister Terrific va faire partie intégrante justement de l'équipe de Earth 2. Et à partir du numéro 2, normalement, il va intégrer cette nouvelle Terre. Il y a une couverture aussi qui a été diffusée qui montre le nouveau design de Hawkgirl qui sera sur la Terre 2. Et a priori, il a l'air de dire qu'il n'y a pas de Hawkgirl sur la Terre 1 actuellement. Donc, il y aura peut-être une rencontre un jour entre les deux Hawkman et Hawkgirl. Et enfin, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, ça a été confirmé, il a bien confirmé qu'il n'y a qu'un seul Darkseid pour tout le multiverse, en fait. Qu'il n'y a pas de Darkseid dans chacun des univers et que ça fait partie un peu d'une entité supérieure. C'est le même qui a tenté d'attaquer toutes les différentes terres en même temps. Ça, c'est un peu une confirmation. Donc voilà, plein de petites infos qui mettent l'eau à la bouche, justement, sur Earth 2 et sur la suite.
D'accord. Voilà, voilà. Ben c'est intéressant, en tout cas, ça donne l'eau à la bouche pour la suite.
Bah ouais, c'est clair, ça, c'est vachement intéressant.
Et moi, je suis content personnellement que Superman soit mort.
Ouais, voilà, c'est une série dans laquelle il n'y a pas Superman, il n'y a pas la Trinité. Ah oui, il y a une petite chose aussi, il a confirmé que la mère de Huntress, c'était bien Catwoman, mais pour l'instant, on ne sait pas si elle est encore en vie ou pas. Donc ça, c'est comme à l'époque, avant la crise. Ce sera plus dans World's Finest où ils vont revenir sur des flashbacks sur justement Huntress et son origine. Donc voilà, enfin, il a révélé pas mal de petites choses intéressantes et il a aussi pas mal teasé son prochain titre qui est DC Universe Présente, ce qui sera sur Vandal Savage et ça a l'air vraiment bien avec un côté très Silence des Agneaux. Je pense que ça sera pas mal.
Alors on va continuer avec Joss Whedon qui a remercié hein, tous les fans du succès d'Avengers.
Il en a plein les fouilles là, quoi. Il a dû avec tout ce qui a été, tout ce qu'il a rapporté comme argent. Là.
C'est monstrueux. Donc voilà, enfin, il a remercié un petit peu tous les fans et il parlait un petit peu de ses futurs projets, notamment Wastelanders, hein, le projet en tandem avec Warren Ellis, ou encore Doctor Horrible 2.
Ah oui, d'accord, ok.
Il a parlé d'un rêve, alors à savoir s'il rigole simplement ou si peut-être on lui laissera les mains libres pour faire. Ça, en tout cas, ce serait de relancer la franchise Air Bud.
Alors, je connais pas ça, Air Bud. Qu'est-ce que c'est?
Air Bud, alors, je sais pas si ça avait débarqué en français, mais en tout cas, c'est une franchise, puisqu'il y en a eu plusieurs hein, aux États-Unis. C'est un espèce de chien.
D'accord.
qui
C'est
joue au football
crypto?
américain, je crois.
Ah non, d'accord.
Si mes souvenirs sont bons, il joue au football américain.
Ah, mais je crois que j'avais vu passer un jeu vidéo là-dessus, un test quelque part. Ça avait l'air complètement ridicule, avec des chiens
Ouais,
qui
mais
jouent au football américain.
voilà, c'est un chien super balèze.
Ok, ça change d'Avengers quoi, mais ah, peut-être que c'est un teaser pour nous dire qu'en fait il y aura bientôt les pets Avengers qui vont rejoindre l'équipe, peut-être plus tard. Ça pourrait être rigolo.
Ouais, je pense que sur grand écran, ce serait surtout très ridicule, mais bon.
Ouais, peut-être.
On va passer du côté de DC. On a quelques news notamment sur l'annual de Flash qui va débarquer en septembre, puisque à partir du prochain épisode, dans les pages de Flash, on découvrira un nouveau membre des Rogues dans chaque épisode. Et tout ça va monter, 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 jusqu'à ce que le tout éclate dans l'annual qui sortira donc en septembre. On découvrira donc des nouvelles versions de Heatwave, Weather Wizard, Golden Glider, Gorilla Grodd ou encore le Pilot Piper.
Ouais, ça peut être sympa. Mais alors c'est marrant parce que ça veut dire que les annuals maintenant c'est vraiment des continuations d'arc en fait. C'est plus vraiment des histoires à part parce que
Il y avait
ils ont
déjà eu
déjà fait le
ce
coup
syndrome.
avec
Ouais.
The Culling justement.
On avait eu le syndrome déjà sur Superman à l'époque de George Pérez. On a vu la fin d'un arc dans un annual puisqu'il avait été retardé très longtemps et l'histoire avait dû avancer. Et c'est peut-être pas plus mal, ça oblige à acheter les annuals et puis on a des histoires qui sont peut-être un peu plus intéressantes dans les annuals que des histoires que l'on peut passer, tout simplement.
Il y a également un annual de Superman qui a été annoncé et le pitch, bien que très classique, a l'air assez amusant avec un Superman qui se fait enlever par des aliens, amené dans une autre dimension où il va devoir faire une sorte de jeu télévisé. Il va se combattre contre d'autres aliens et ça va être à qui il va être le meilleur. Une sorte de battle royale dans l'espace. Et avec un Green Lantern qui serait infiltré, on sait pas qui. Et donc voilà, il y aura un team-up avec un Green Lantern. Ça, je crois que ça sortira pareil à la rentrée septembre-octobre.
C'est une bonne nouvelle. Bon, on verra si c'est bien ou pas, et puis on verra aussi au niveau des équipes créatives, hein, qui sera dessus, parce que pour le Flash Annual, ce sera la même équipe que d'habitude. Après, pour les autres annuals, on verra. On passe maintenant du côté de chez Marvel avec la grosse annonce de la semaine, le teaser que l'on a vu un petit peu partout sur le net. No More Avengers. Dans les pages de Avengers vs X-Men, hein, l'acte 2 qui commence au numéro 6, c'est-à-dire au mois de juin. Et donc on nous annonce qu'il va y avoir un gros événement qui va tout changer et que c'est quelque chose que l'on n'a jamais vu encore avant.
Oh.
Le pitch habituel, quoi, hein?
Comme d'habitude, comme d'habitude.
Donc bah on pense peut-être à une variation sur l'après House of M mais version Avengers, forcément.
Ouais.
Et donc sur ce teaser on voit une Terre en forme de X tout simplement.
Ouais, les mutants au pouvoir. On pouvait, c'était parmi les gens qui faisaient des théories un peu sur comment on pouvait se finir avec X. C'était une des théories, savoir que les X-Men allaient reprendre un peu le pouvoir, mais à voir. Parce qu'il y aura quand même encore 6 numéros après derrière. Donc
Et
il y a
donc
de
là
l'espoir.
justement ce sera pas la fin, ce sera pendant, donc on verra ce que ça peut donner. En tout cas à partir du numéro 6, ce sera Olivier Coipel au dessin et ça va nous
Oh,
changer de John
enfin.
Romita qui depuis le numéro 1 fait de la merde.
On ne va plus pleurer des larmes de sang, quoi, en
Ouais.
regardant nos comics, quoi.
Ouais, ce sera un peu mieux, on les lira peut-être avec un peu plus de plaisir. Peut-être. Ou
Peut-être.
peut-être pas, hein? Ça va dépendre. Donc voilà, tu avais encore quelque chose
Bah non, moi
en
c'était
guise
juste un
d'annonce?
petit clin d'œil. C'était juste pour dire que bah là maintenant il y a la saison 2 de Young Justice qui a commencé. On est déjà au deuxième épisode. Grosse, grosse, grosse surprise. Il y a eu un flash forward de 5 ans, ce qui fait qu'on se retrouve avec une tonne de nouveaux personnages bah, qui vont faire rêver les fans quoi. Avec Nightwing, on a le Robin qui est Tim Drake, on a Batgirl, on a eu Lobo dans le premier épisode. Enfin c'est vraiment l'orgie. C'est toujours aussi bonne qualité. Ils font maintenant une histoire en rapport avec le Galactique, avec justement l'invasion. On a vu Rantanagar et tout. Enfin, ça, c'est vraiment du très lourd et je conseille vraiment les gens à essayer Young Justice.
Mon Dieu, Young Justice, Desperate
Oui, voilà, ils font des flash-forwards. Mais
Housewives.
non, non, mais c'est Lost qui avait fait ça, qui avait inventé ça. C'est pas Desperate. Desperate, ils l'ont fait l'année suivante.
Ouais, enfin passer 5 ans dans le futur. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas vu la fin de Lost, donc je sais pas
Si,
s'il y a
si.
eu.
Dans Lost, il y a aussi ils ont le concept des flash-forwards qu'ils ont fait avant justement qu'ils se soient fait dans Desperate.
Ok. On termine avec une petite news un petit peu triste. Jeff Lemire a dit qu'il allait arrêter Sweet Tooth. Tout simplement parce que bah il trouve que voilà l'histoire arrive à son terme et donc il décide de l'arrêter. Je pense pour ma part qu'il y a aussi le fait qu'il est sur beaucoup 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 de projets chez DC et qu'il n'a plus forcément le temps puisque bah, Sweet Tooth c'est une série qu'il écrit et qu'il dessine en même temps, sachant le nombre de séries qu'il scénarise aussi chez DC tous les mois, je pense que ça lui fait peut-être un peu trop de travail. Donc la série s'arrêtera au mois de décembre.
Et tu sais à quel numéro ce sera? Ce sera une série longue au final ou...
Non, pas du tout, sauf aux alentours numéro 40, je crois.
D'accord, ok.
une page qui se tourne, mais au moins cette série s'arrête avant d'être annulée pour cause de vente. Ce sera une fin qui sera vraiment programmée et qui sera bien faite, quoi.
Voilà, ouais. Ça c'est rassurant toujours.
Ça fait toujours plaisir, oui.
Voilà, ouais, parce que là hier soir j'ai fini, j'ai regardé The Event et avec la fin tout pourrie. C'est toujours décevant quand on voit une série ou un comics où on n'a pas de vraie fin, quoi. Donc,
annulé pour manque d'audience ou
voilà,
pour
ouais.
De manque de lecteurs, c'est toujours un petit peu désespérant puisqu'on sait très bien que la série aurait pu donner plus de potentiel, aurait pu avoir plus de choses et c'est pas forcément le cas. Ok, donc ça conclut le news de la semaine et puis on va maintenant passer aux sorties du Free Comic Book Day. On va faire un petit tour de ce qui est sorti. Bon, on va pas tout traiter, hein, y en a eu tellement. On va juste parler de quelques-uns. On va se garder le plus gros pour un petit peu après. On va commencer par des petites choses qui ont créé la surprise et que beaucoup de gens ont dû aller voir puisque c'était la fameuse grosse sortie. Le Dinosaurs vs Aliens de Grant Morrison.
D'accord, ouais. Donc c'est une preview, c'est ça?
Parce preview, que
je l'ai pas vu moi.
Ouais, voilà, c'est une preview. Et puis bon, c'est créé en même temps par Barry Sonnenfeld, hein, puisque c'est en même temps un comic, c'est un film.
Ouais, tout
est,
d'accord,
tout
ok.
Est relié. Bon, on a que quelques pages. C'est intriguant. Maintenant, bon, voir des combats de dinosaures. Alors c'est très beau, par contre. Il y a pas à chier là-dessus. C'est vraiment très très beau. Au dessin, on a Mukesh Singh et Liquid Studios.
D'accord.
C'est vraiment très joli. Apparemment, donc, une race d'aliens débarque sur la Terre à l'époque des dinosaures. Et apparemment, ils ont des têtes de dinosaures eux aussi. Ou peut-être pas, on sait pas trop en fait. C'est vraiment bizarre, on voit des dinosaures qui ont énormément de couleurs, mais surtout des dinosaures qui ont des colliers, des choses comme ça. Donc on se demande un petit peu ce que c'est. On n'en a pas assez pour savoir, mais on a une petite interview, enfin une petite post-face de Barry Sonnenfeld et de Grant Morrison. Quelques sketchs de préparatoire qui sont mais magnifiques, vraiment.
D'accord, et ça on pourrait s'attendre en fait si jamais ils en font un film en image de synthèse vu qu'il n'y a pas d'humain.
Ce sera prévu pour être un film, de toute façon c'est développé conjointement.
Hein, mais il n'y a pas l'air d'y avoir des humains, en fait c'est que des aliens contre des dinosaures. Donc ça pourrait très bien être en image de synthèse comme un film Pixar ou un truc comme ça.
Apparemment. Donc le graphic novel hein, débarque cet été, c'est juste un preview, mais ça a l'air. En tout cas, ça donne envie d'aller voir. Après, est-ce que ce sera bien ou pas, ça on verra au moment de la sortie, mais ça donne envie d'aller voir, et je pense que c'est le principe hein, pour le Free Comic Book Day. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait un preview de Spider-Man Season 1, qui sont quand même les 20 premières pages du comic. J'en reparlerai tout à l'heure, puisque je l'ai lu, il est sorti cette semaine.
Ça, c'est un peu feignant, en fait, de la part des éditeurs, ceux qui vendent, enfin, qui proposent juste des previews de choses qui sortent très rapidement après. C'est vraiment.
Ouais, la semaine d'après, enfin, le mercredi d'après, ça craint un petit peu, quand même.
C'est pour ça que c'est quand même ceux qui font un effort de faire du matériel inédit, c'est vrai que ça ressort du lot, quoi.
Mais... Ouais, mais généralement, on a quasiment que des previews. Hein. C'est très rare d'avoir du matériel inédit, ça devient de plus en plus rare.
Bah justement, c'est pour ça que là, DC, ils ont fait fort cette année avec leur Free Comic Book Day.
Bon, on va y passer tout de suite, hein, de ouais. toute façon.
Donc, justement, le Free Comic Book Day de DC Comics, donc le New 52 numéro 1. Bah alors, en fait, j'ai préparé un petit dossier là qui sera disponible à vendredi. Donc, je pense que vous écouterez le podcast, il sera déjà disponible à ce moment-là. Mais donc, c'est un Free Comic Book Day qui s'intéresse justement au background de Pandora, qui nous dévoile énormément de pistes sur l'avenir des histoires de chez DC Comics. C'est juste incroyable qu'en 16 pages, ils placent autant d'indices, quoi.
Oui, on voit aussi qui est le troisième de cette fameuse Trinity of Sin.
Voilà, exactement.
Pandora, Phantom Stranger, qui est le troisième. On va pas vous le révéler, hein. Ce serait pas
ouais, facile. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça risque de faire râler certains fans.
Moi, je suis franchement assez mitigé, hein, quant à l'identité de cette troisième personne.
Voilà, c'est ça. Donc,
C'est-à-dire que c'est vraiment changer le personnage. Parce que oui, c'est un personnage connu, hein, bien évidemment. C'est vraiment changer la notion même du personnage, le rendre mystique à un personnage qui n'était pas du tout.
Oui, qui était beaucoup plus street level caractère, et donc là, c'est le rendre très mystique. Mais après, ça veut pas dire qu'il y aura un équivalent plus, enfin, je sais pas.
Oui, il y aura peut-être un équivalent plus simple, plus street level, mais ce serait con d'avoir deux personnages avec même identité ou presque.
Mais bon, en tout cas, ils essayent de faire des choses, de renouveler un peu des anciens principes et tout, et... Enfin, moi, j'ai vraiment été emballé, et puis je vous invite donc à lire ce dossier qui sera sur le site à partir de vendredi.
Ouais.
Puis bon, c'est aussi, super bien dessiné, quoi. Vraiment, ils ont pris les quatre gros dessinateurs.
Ah bah, on a du Ivan Reis, du Rocafort, on a du Jim Lee aussi, hein.
On a du Jim Lee, on a du Jim A.
Non, tout ça, c'est très sympa. Bon, on voit donc cette fameuse page, hein, comme je disais. On voit aussi surtout ce qui mène, on voit que c'est dans un futur proche, et on nous promet ça pour l'année prochaine. Donc, prenez votre mal en patience.
Ouais, c'est un bon teaser, quoi.
Au moins, là, c'est sûr, c'est juste du teaser et ça sera pas pour la semaine d'après.
Oui, ça c'est sûr.
au rang des choses qui teasent, mais pas forcément pour la semaine d'après, on a aussi le Free Comic Book Day de Valiant, qui présente les quatre séries de Valiant qui sortent cet été. Donc on a X-Men Noir qui est déjà sorti. On a un petit preview pour ceux qui l'ont raté pour donner envie de lire. On a aussi le preview de Harbinger, qui sort donc ce mois-ci, normalement. Non, pardon, le mois prochain. Puis on a des petites interviews de chaque créateur, donc Joshua Dysart pour Harbinger, on a Dwayne Swarzynski pour la série Bloodshot, où là on a juste un bout de script, on n'a pas d'image, on n'a rien. On a
D'accord.
l'interview du créateur de Archer and Armstrong qui est Fred Van Lanty, et puis Robert Venditti pour XO Manowar. Et surtout, on voit que Valiant n'a décidé de ne pas s'arrêter là, puisque pour le printemps 2013, on nous a déjà montré un visuel de Rai. Retour de Rai, donc qui sortira au printemps de l'année prochaine.
D'accord, oui, alors ça c'est pareil,
Donc
pas
ils
mal
continuent,
d'avance, quoi.
ouais voilà, ils continuent de ressortir toute leur gamme chez Valiant. Ils ne s'arrêtent pas qu'à quatre titres, ils ont déjà prévu un cinquième. Intéressant.
Bah
On
ouais.
verra où ça mène. J'ai lu aussi, alors je l'ai pas lu en entier, j'ai lu que la partie sur Superman, hein, le DC Comics plutôt Kids, hein, avec le preview de Superman Family Adventures, la nouvelle série de Herb Battlezar et Franco.
D'accord, et c'est ce qui va remplacer les Tiny Titans, c'est
Voilà,
ça?
c'est ça. Dans
D'accord.
Superman, et alors c'est franchement, avec ces quelques pages-là, je me suis déjà bien marré. On a tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a Superman avec son nouveau costume et on a des passants qui commentent le fait qu'il ait un nouveau col, qui trouvent ça joli. On a un Perry White qui gueule sur Clark Kent et qui comprend rien. Enfin voilà, c'est vraiment tout le côté bêta du mythe de Superman, mais tourné de façon drôle et c'est bien foutu, quoi, comme d'habitude. Moi, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de lire le premier épisode en entier.
Ah bah c'est cool ça. Puis c'est bien, c'est à double lecture, il y a pas mal de petits clins d'œil du coup pour
Ah
les
bah
fans de
toujours,
comics
ouais.
aussi, ça c'est agréable quoi.
Et puis on a cette page, hein, qui nous présente le truc et on aura vraiment toute la famille Superman, hein, que ce soit du Lois Lane, du Jimmy Olsen, on aura aussi du Supergirl, de Crypto, du Superboy, enfin voilà, ils sont tous là, donc ça c'est plutôt cool.
Il me tarde de voir Doomsday dessiné façon gamine comme ça peut être rigolo.
Y avait aussi un preview de la série animée Green Lantern en comics. Je ne l'ai pas lu par manque de temps, tout simplement. En tout cas, on voit du Red Lantern passer, on voit vraiment plein mal de trucs, ça a l'air sympathique. Il faudra que j'y jette un œil de façon un peu plus prononcée, j'ai juste pas eu le temps
Moi,
de
j'ai vraiment du mal avec le design. J'aime pas du tout ce côté image de synthèse totalement, les formes un peu. J'aurais préféré de l'animation classique,
Ah bah
personnellement.
là pour le comics, c'est vraiment du dessin,
Ouais,
hein.
je sais, mais ils ont repris un peu le design quand même, un peu bizarre du dessin animé. Je crois que Nono nous en avait parlé une fois, il nous avait commenté un comics qui était basé sur ça. Moi, j'adhère pas trop. Mais...
Bon, j'ai pas eu le temps de m'y pencher vraiment, donc je verrai ça plutôt cet été quand il y aura moins de choses à faire, moins de séries à suivre. J'ai quasiment terminé, puisqu'il me reste encore alors un truc totalement bizarre qui est sorti sous le label Animal Planet, que je ne connaissais pas, qui s'appelle World's Most Dangerous Animals. Avec en
D'accord.
cover un ours qui grogne, enfin en tout cas qui montre les dents, et on a un gros panneau Beware of Wild Animals. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ouais, ça a l'air assez bizarre.
Je vais pas vous citer les auteurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais il y a du Paul Kupperberg par exemple, il y a du Robert Grimberger, et dans les artistes on a vraiment pas mal de monde, pas des gens très très connus. Donc je vais pas citer tout le monde. On a deux petites histoires, une histoire avec un grizzly, donc quelqu'un qui se baigne dans une rivière et qui tombe nez à nez avec un grizzly et comment il va essayer de s'en sortir. On en profite pour nous expliquer un petit peu comment vit le grizzly, etc. Ah, c'est très éducatif.
Ouais, c'est bizarre, mais ouais,
Mais
pourquoi pas.
c'est bizarre en fait, c'est le genre de truc qu'on verrait un petit peu sur Discovery Channel, tu vois, des documentaires un peu comme ça, quoi. Et après on a un truc sur un crocodile d'Australie qui s'appelle le Saltwater Croc, donc crocodile des eaux salées, hein, en
D'accord.
français.
Et après, il y aura des combats, ils vont dire qui est le plus fort entre un
Ah ben
petit
non,
et un
pas l'impression, hein. J'ai
grizzly?
l'impression que c'est vraiment
D'accord.
plus pour nous présenter les animaux de dangereux, etc. J'ai pas l'impression non plus qu'il y ait de suite à ce truc-là.
Ok.
C'est vraiment bizarre. Donc voilà, c'est étrange, c'est juste étrange, c'est une curiosité. On a aussi un preview à la fin de Jurassic Strike Force 5, que je n'ai pas aimé. D'ailleurs, il y avait un Free Comic Book Day sur ce truc-là et je n'ai pas aimé du tout. Ça me branche pas du tout.
C'est la mode des dinosaures en ce moment.
Ouais, les
Ils
dinosaures
reviennent en
reviennent.
force.
Ouais. Il y avait aussi, ce sera mon dernier petit commentaire sur les Free Comic Book Day, parce qu'il y avait tellement d'autres choses. un numéro spécial Image, qui célèbre les 20 ans, où on avait la présentation de 6 séries. Alors en quelques pages, hein, c'est vraiment 3-4 pages, on avait du G-Man, du Crime Terror, Near Death, Revival, Guarding the Globe et It Girl and the Atomics. Alors là, on a vraiment beaucoup de monde, hein. On a du Chris Garusso, on a du Michael Red, on a du Phil Lester, du Guglielmani et Ferber pour Near Death, on a du Steve Niles, du Tim Seeley, enfin, il y en a vraiment beaucoup, j'ai pas tout lu non plus, par manque de temps, parce que c'est assez long à lire.
C'est de l'inédit, ça, ou c'est, pareil, c'est des extraits du...
J'ai l'impression que ce sont des extraits, en fait.
D'accord.
Ce sont des extraits, okay. Mais on a des extraits de plusieurs séries, et ça, c'est plutôt pas mal, ça donne envie, voilà, on lit, on voit si ça nous plaît ou pas, et puis on donne la chance au produit ensuite, quoi. Donc à chaque fois, c'est 4-5 pages, mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai bien sûr lu Near Death tout de suite, hein, toujours aussi bon. J'ai lu G-Man qui est très très fort, hein, mais ça, voilà, c'est G-Man, c'est vraiment du super-héros pour avec un style pour enfants. Enfin, c'est Chris Garusso, donc il a un style très un peu comme celui qui, comme Chris Eliopoulos, hein, qui dessine Franklin Richards, Son of a Genius, ou qui dessine des petits cartoons comme ça.
D'accord.
Très sympa, quoi. Donc voilà, il y avait des bonnes choses. Hein, il y en a encore tellement d'autres, mais on n'a pas le temps de passer par tous. J'avais lu le Witchblade. Qui lui par contre est assez intéressant, j'allais complètement l'oublier, qui s'appelle Topco Rebirth Witchblade. Et on a une petite explication du monde de Topco. Alors moi je ne suis plus Topco depuis des années, je ne sais pas du tout ce qui s'y passe.
Alors moi non plus, mais bon.
Et alors en fait, Topco vient de subir un espèce de gros reboot de son univers.
Ouais, j'avais entendu ça.
Donc on a un petit preview extrêmement beau, dessiné par John Tyler Christopher. C'est magnifique, c'est du photoréalisme, c'est saisissant. Ça, c'est écrit par Rod Mars, et puis donc ça fait 4-5 pages. Hein.
C'est une introduction pour... un peu à ce nouvel univers.
Qui explique la différence entre l'ancien univers et le nouveau, et pourquoi il y a ce nouveau univers. Et ensuite, on a un gros rappel du dernier TPB de Witchblade, en 20 pages, à peu près, même un peu moins. C'est écrit par Tim Seeley, avec Diego Bernard au dessin, et Fred Benness à l'ancrage. Et donc, ça permet de présenter un petit peu Witchblade et les choses qui s'y passent actuellement, pour un nouveau lecteur, et c'est plutôt pas mal.
C'est bien.
C'est assez intéressant. Je n'y pas aller jeter un petit coup d'œil à Witchblade dans le futur finalement, parce que moi qui avais peur d'être complètement largué, Witchblade, j'ai dû arrêter de lire vers le numéro 20, un truc comme ça. On est au numéro 150 et des bananes.
Ouais. Voilà, ça fait beaucoup de choses à rattraper.
Ce qui se passe. Et je sais que Rod Mars avait donné une assez grosse cohérence à l'univers Topco. Donc j'étais un peu perdu. Là, c'est un très bon moyen de continuer, hein, parce que il envoie pour ça envoie pour le nouvel épisode qui sortira, je crois, c'est ce mois-ci ou le mois prochain, le numéro 155. Donc plutôt pas mal fait, ça aussi. Voilà, c'est tout pour le Free Comic Book Day. On va passer maintenant aux sorties de la semaine, et c'est toi qui va commencer, King Ed.
Ouais, alors chez DC Comics, on va commencer avec le Green Lantern numéro 9, donc la troisième partie du secret de la tribu Indigo, donc avec Jeff Jones au scénario et Doug Mankey au dessin. Un très très bon numéro, franchement j'ai vraiment pris mon pied en lisant ça. Déjà, il y avait, au niveau des dessins, bon, c'est toujours aussi superbe. Hein. On apprend enfin énormément de choses. C'était un peu long à venir, mais là, ça y est, on a toutes les révélations sur l'origine de la tribu Indigo, sur le lien qu'il y avait entre Abin Sur et justement cette tribu Indigo.
Comment ?
Sur Abin Sur, justement, tu sais... Allô ?
Je fais la blague, c'est Abin Sur. Oh putain, je sais, c'était vraiment mauvais, mais il faut bien remplacer Denis. Hein.
Allez, je vais te dire knock 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 knock. D'ailleurs, la fin de la review, je vais la faire aussi que en parlant le Indigo, parce qu'on apprend également qu'est-ce que ça veut dire ces fameux knock 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 knock. Donc bon, voilà, beaucoup de révélations et pas mal d'humour. J'ai bien aimé aussi l'inventivité dans les créations de Hal Jordan au niveau de son anneau. Voilà.
Commence-t-on à avoir une idée pourquoi il y aurait un nouveau Green Lantern dans la Justice League ?
Alors. Peut-être pas tout de suite, mais moi j'ai ma petite idée quand même dessus. J'en parle dans mon dossier, tu verras. Et mais par contre, ce qu'on apprend, et ça c'est pas vraiment un spoil, c'est que Blackest Night a bel et bien eu lieu dans l'univers New 52. Donc clairement, c'est indiqué et tout. Donc ça c'est intéressant, ça permet un peu de se dire...
De toute façon, je vois pas comment il aurait pu en être autrement avec toutes les,
voilà, c'est ça,
toutes
ouais,
les
mais...
couleurs de lanterne et le fait qu'il se fasse autant la guerre.
Ouais, mais tu sais, comme il y a des choses qui ont l'air d'avoir changé quand même un petit peu, là c'est bien, c'est écrit noir sur blanc, il y a des événements comme ça qui sont réexpliqués. Franchement, c'est un indispensable pour les lecteurs de Green Lantern. Et puis alors la fin, La fin, moi, j'ai trouvé ça vraiment à mourir de rire parce qu'il y a, quelque chose qui se passe qui est assez expéditif et tu as Hal Jordan qui se retrouve très désemparé par rapport à ce qui se passe. Et c'est vraiment bien représenté, je trouve. Donc, du très très bon Green Lantern, c'est un bon gros bail.
D'accord, mais moi, il faudra que je rattrape l'arc parce que je l'ai pas encore commencé, en fait.
Ouais, alors il me semble que ça c'est en quatre parties, donc sinon t'attends la fin de l'arc et puis tu lis les quatre d'un coup, mais en tout cas.
Mais ouais, non, je vais peut-être lire celui-ci. Si tu me dis qu'il est vraiment très bien et qu'on apprend vraiment
Là,
beaucoup de
on
choses.
apprend toutes les choses, quoi. Toutes les révélations sont dedans.
Et moi, je suis tellement déçu par Geoff Johns que du coup, j'en viens à lâcher la plupart de ses produits, et notamment cette différence de caractérisation. On va pas en reparler, mais enfin voilà. Tout ça
Alors.
fait que j'ai du plus de mal à me dire chaque mois, ah bah tiens, je vais aller lire Green Lantern, enfin, j'y vais pas avec plaisir, quoi.
J'ai réussi à trouver une interview de Jeff Jones assez récente où justement, je crois que c'était sur CBR ou Newsrama, enfin en tout cas, justement il y a le journaliste qui lui demandait comment ça se faisait qu'il y avait une telle différence au niveau du personnage entre Justice League et Green Lantern. Et en fait, il disait oui, ça se passe bien dans le même univers, mais c'est juste que comme c'est un peu comme quand il va avec ses potes et tout, donc du coup il est plus drôle, il se sent bien chez lui, il a plus ce côté je suis le Green Lantern, il y a les gardiens qui sont là, je suis censé leur obéir. Là, c'est
Oh,
vraiment,
l'explication de merde.
alors c'est un peu ça. Ouais. Quand j'ai lu ça, je dis ouais, c'est un peu
Ben, en
l'explication de
fait,
merde.
ils savaient pas quoi faire, ils s'en étaient peut-être même pas aperçus, et voilà.
Ouais, mais bon, en tout cas, les gens lui ont dit, il en est conscient, peut-être qu'il va essayer de faire en sorte qu'au final ça s'explique, mais bon, je suis d'accord avec toi, c'est un peu bidon son explication.
C'est clair. Ok, donc un gros bail, hein.
Mais ouais, celui-là c'est vraiment un gros bail. Ouais.
Très bien, on continue. Alors moi, cette semaine, finalement, je n'ai lu aucun DC. Comme je savais que tu en avais lu beaucoup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs, histoire de traiter d'un petit peu tout. Je vais commencer cette semaine par un truc, bah, pas top, tiens, justement. Une nouvelle série chez Boom Comics, qui s'appelle Higher Earth. C'est écrit par Sam Humphries et dessiné par Francesco Biagini,
D'accord.
pardon. J'ai du mal avec les noms italiens. Alors honnêtement, l'histoire c'est assez brouillon en fait. Un mec arrive, s'écrase dans une espèce de décharge, hein, ni plus ni moins. Il a une épée, il est balèze, il fait peur aux gens. Et on voit une fille qui se cache dans une capuche un peu façon Hope quand elle était dans le futur avec Cable.
Ouais.
Franchement, voilà, c'est ça. Il va la voir et il lui dit ouais, viens avec moi parce que en fait cette terre elle est pourrie. Il y a plein d'autres terres parallèles et t'as des terres qui sont mieux, il y a des terres qui sont moins bien. Ils sont pourchassés par un gars, ils arrivent à s'en séparer, et du coup ils vont aller sur cette terre dont vient le gars qui est apparu hein, au départ. Il amène la fille avec elle, et il lui dit que finalement sur cette terre elle est illégale,
Hein?
et qu'il va falloir qu'elle se
D'accord.
cache.
Ok. Et quel était le but d'aller la chercher?
Mais je sais pas, apparemment il la connaissait d'une version alternative d'une autre terre, sûrement, mais j'ai trouvé ça assez bof, franchement. Je m'attendais à mieux que ça.
D'accord. Bah moi justement, Sam Humphries, bah j'en parlais tout à l'heure, mais maintenant il a repris le titre Ultimate. Donc c'est un scénariste dont on entend maintenant de plus en plus parler. Mais donc là, ça t'a pas trop convaincu, quoi, au niveau du
Non,
scénario.
franchement, ça m'a pas convaincu à tel point que je ne sais pas si j'irai voir le numéro 2, parce que finalement, en fait, je crois que je m'en fous
Ah,
de ce qui
d'accord.
peut leur
Et
arriver. Ils pourraient crever
graphiquement,
dans
ça t'a
d'atroces
pas...
souffrances, que ça me ferait rien du tout, quoi.
Ouais.
En plus, enfin, le dessin, je le trouve pas top top. Ça rentre pas dans mes goûts. Je trouve ça juste, enfin, c'est moyen, quoi. C'est ni beau. Y a rien de remarquable. C'est pas laid, mais c'est pas beau. Enfin, voilà, quoi. Les personnages, je les trouve absolument plats, sans saveur. Cette espèce de gars qui débarque avec son épée, qui vers la fin commence à nous faire un coup façon très manga avec son épée sur le côté, on dirait du Rurouni
Ouais, c'est un peu Trunk aussi dans Dragon Ball qui
Kenshin.
vient
Ouais,
comme
enfin
ça
voilà,
direct.
c'est assez. J'ai l'impression qu'il y a d'inspiration un petit peu partout, et puis surtout qu'au final, ça donne pas grand-chose. Donc franchement, très déçu. Pour moi, même pas un check-it. À
D'accord.
mon goût. Maintenant, ça vaut qu'un dollar. C'est un premier numéro qui vaut qu'un dollar. Si vous avez pas grand chose à acheter cette semaine, jetez un œil. Déjà, regardez-le, feuilletez-le, et puis voyez si ça vous branche. C'est vrai que c'est qu'un dollar, c'est pas très cher pendant cette nouvelle série, et ça, c'est une bonne initiative. Donc pour moi, un passe.
D'accord, ok. Alors moi chez Marvel, je vais vous parler de The Ultimates numéro 10, donc la quatrième partie d'un arc justement avec la guerre entre Reed Richards et justement le monde entier en fait, parce qu'il en veut au monde entier. Donc on a c'est le premier numéro où en fait on a Sam Humphries qui justement vient rejoindre Jonathan Hickman et qui là maintenant commence à prendre les rênes justement du titre Ultimates.
C'était une transition toute trouvée, donc.
Voilà, c'est ça exactement. Donc au niveau artistique, ce n'est plus Ribitch, mais c'est Luc Ross qui va reprendre maintenant le titre.
Oula, ça doit faire un choc, un gros changement.
Alors ça fait un changement, mais c'est quand même pas trop mal. Franchement, j'avais peur, parce que Ribitch c'est vraiment sublime. Mais ça va, la transition est pas trop mauvaise. Il y a de très beaux panels aussi. Franchement, c'est pas mal. Alors, je vous avais dit la dernière fois, le dernier numéro, que il s'était passé un truc de folie, quoi. Et donc, là, c'est les conséquences. Juste pour vous dire, voilà, il y a carrément le Capitole, tout Washington qui a été détruit par Reed Richards, le président des États-Unis et tous les membres du gouvernement sont morts. Donc, c'est la panique un peu aux États-Unis.
C'est un peu le bordel, j'ai l'impression.
Ouais, voilà. Donc, ça commence en fait avec justement War Machine qui vient récupérer le ministre. Je crois que c'est le ministre de l'énergie qui va devenir président, parce que tous les autres qui était normalement dans la ligne de commande pour devenir président, sont tous morts. Donc ils se retrouvent là un peu, ah bon, d'accord, ok.
Ça me fait penser à Battlestar Galactica.
Voilà, c'est ça, ça fait penser à Battlestar Galactica, ce passage. Après, ce qu'on voit également, c'est que le SHIELD, maintenant c'est le bordel aussi, parce que Nick Fury est recherché par le SHIELD, il y a quelqu'un d'autre qui dirige le SHIELD, c'est l'agent Floom. Donc Nick Fury est obligé de se cacher avec son équipe, donc avec Falcon, Hawkeye et Black Widow, donc ils sont recherchés. En parallèle, on a toujours Tony Stark qui fait un team-up avec Thor. Donc il a des problèmes de santé, là, Tony Stark, qui a à nouveau son cancer qui vient faire des siennes. Ça amène à une scène vraiment intéressante et qu'on attendait depuis très longtemps, puisqu'enfin on retrouve le personnage de Sue Storm, des Quatre Fantastiques, que pour l'instant on n'avait pas encore revu. Et elle apprend que Reed Richards est derrière tout ça, donc ça... Je pense qu'il y avait des choses intéressantes à creuser avec justement les personnages des Quatre Fantastiques qui sont en vie et... Donc non, c'est vraiment vraiment super. Graphiquement, donc ça se tenait et voilà, enfin c'est vraiment toujours aussi bon. Pour moi, c'est un des meilleurs titres chez Marvel. Donc je vous conseille de l'acheter, un gros bail aussi.
Je vais continuer dans l'indé avec la sortie de Trio numéro 1 chez Dark Horse. Alors c'est une nouvelle série de Monsieur John Byrne, quand même.
Ah ouais, quand même.
Qui une fois de plus fait tout hein, comme d'habitude, sauf les couleurs. Et le lettrage, mais bon, enfin, c'est du John Byrne, quoi. Alors Trio, c'est une équipe de trois, hein, comme son nom l'indique.
Ouais, c'est des chanteurs de reggae.
Ça pourrait, mais non, pas du tout. Hein, ce sont des super héros. Je vais lancer tout de suite. C'est hyper old school.
D'accord. Ok.
C'est les années 80 à fond. Donc déjà, ça ne plaira pas à tout le monde à cause de ça. Maintenant, moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Je me suis bien marré. Alors, on sent les influences de John Byrne et notamment les influences des Quatre Fantastiques. Mais alors, à plein nez.
Ouais. Sauf qu'ils sont trois là, du coup.
Sauf qu'ils sont trois. Mais enfin, on a un mec qui est un petit peu sous forme de pierre. On a un gars qui bouge très vite et qui a des ciseaux à la place des mains. Ouais. Et on a une fille qui est plate et qui apparemment s'allonge.
D'accord, oui, effectivement. Il a pris un peu à tous les râteliers.
Exactement, voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu le point culminant de tout ce qu'il a fait dans sa carrière qu'il a mélangé. Bon bref, c'est franchement sympathique. On a le style graphique de John Byrne. Donc déjà, pareil, si on est allergique, faut oublier. On a donc une première histoire qui nous présente un petit peu les personnages. Hein, de façon basique, on voit un petit peu leur pouvoir. On commence à voir les enjeux de certains, donc de ce fameux trio. On voit que, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a aussi en parallèle une espèce d'histoire avec des créatures des mers qui ressemblent étrangement aux créatures de The Trench. Enfin,
ah oui, qu'on a dans Aquaman.
Hein, voilà, bon, c'est pareil, c'était pas neuf hein, comme truc, mais c'est vrai que là on y pense tout de suite puisque c'est assez récent. Et donc ces super-héros se trouvent face à des petits brigands basiques qui finissent par exploser, enfin se faire exploser, causant un peu la panique. Et puis voilà, ils sont habitués des médias, bref, hein, y a pas mal de choses, et on voit notamment ce personnage de Pierre, hein, qui, contrairement à Ben Grimm, peut reprendre sa forme humaine.
D'accord, ok.
Sauf qu'apparemment, c'est très douloureux. Mmh. Et le plus longtemps il reste sous cette forme, le plus longtemps c'est douloureux. Apparemment, sa transformation met 20 minutes à se faire, hein, de Pierre à humain.
C'est pas très pratique s'il se fait attaquer à ce moment-là, quoi.
Oui, voilà, c'est pour ça qu'il se cache dans une petite ruelle. On voit aussi qu'apparemment il travaille pour quelqu'un qui est bien caché, hein, qui parle à travers un ordinateur. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pistes.
Et j'ai une petite question, est-ce que c'est dans le même univers que les Next Men ou
J'ai pas l'impression, non, du tout.
D'accord, c'est à part.
Okay. Ouais, c'est à part. Et puis ça finit par une attaque d'un de ces trucs qui ressemble au Trench et qui fait venir un Léviathan qui commence à destroyer la ville puisque un bâtiment est aussi gros que sa main. Voilà, c'est du gigantisme. Et le mois prochain, on aura la suite. Et on nous présente déjà une cover qui est ni plus ni moins qu'une cover que l'on a vue dans Superman par John Byrne. Avec un mec qui tient un autre
C'est
au-dessus de
un
sa
clin
main,
d'œil,
quoi.
quoi.
Ouais, voilà, une couverture qu'il avait déjà faite aussi, je crois, dans Fantastic Four, avec Gladiator à l'époque.
Ok.
Et tous les autres membres des trios à ses pieds. Enfin voilà, c'est une couverture très classique. Il y a même d'ailleurs à la fin des comics Dark Horse, hein, comme tous les mois, on a un petit strip de Fred M. Beck, qui est un mec très connu, hein, qui faisait des strips à l'époque pour Marvel, dans Marvel Age notamment.
Ok.
Et donc dans ce strip, on a les deux personnages qui se moquent un petit peu de ses influences, plus que prononcées en fait. Donc, pour tous ceux qui sont fans de John Byrne, qui sont fans de Old School, ou encore fans de l'époque des années 80, des Fantastiques, etc., à l'époque où c'était John Byrne, achetez-vous dessus. C'est franchement un gros gros bail. Maintenant, pour les gens qui sont allergiques à ça, c'est vraiment pas la peine d'essayer.
Ok, alors maintenant on va retourner chez DC Comics. Je vais vous parler de Batman numéro 9. Donc un numéro, ça faisait un moment que Scott Snyder nous avait dit que ça allait être un numéro très important. Bon, effectivement. Donc alors Scott Snyder au
Oh, c'est dommage,
scénario.
ça aurait été tellement drôle que ce soit pas le cas en fait.
Ouais, voilà, c'est
Qu'il soit
ça.
trompé en disant, ah
Normalement, ça va
merde,
être.
je vous ai dit le 9, en fait c'était le 10.
Donc en fait, on a toujours Scott Snyder au scénario, Greg Capullo pour les dessins, et on a encore, comme dans le précédent numéro, un backup avec Jonathan Glapion et Raphaël Albuquerque qui travaillent dessus. C'est la suite de Night of the Owls. Donc on avait quitté Batman, il était avec une armure façon Robocop dans sa Batcave, et donc c'est la fin du combat. C'est plutôt bien fait, toujours aussi beau graphiquement. Les dessins de Capullo, c'est sublime, quoi. La narration est intéressante. Après, on a le petit passage où on voit un peu tout ce qui se passe dans les autres titres Batman. Donc ça, c'est assez bien fait parce que ça permet de replacer vraiment chacun des tie-ins avec l'événement principal. Et la fin est assez intéressante. Y a un retournement de situation et on sent que ça va pas mal chier, quoi, dans le 10e numéro. Là où j'ai eu une grosse surprise, c'est dans le backup, en fait, qui est super important, en fait. On a l'impression que ça va apporter énormément d'informations sur la mythologie de Batman et sur justement ses origines. Et donc, en fait, on voit le père de Alfred qui raconte une histoire. C'est une lettre. Il adresse une lettre à son fils et il révèle un certain nombre de choses. On voit que le Court of Owls avait peut-être eu un lien avec lui aussi. Et alors, bon, le petit truc rigolo, le père de Alfred, on apprend qu'il s'appelle Jarvis. Donc voilà, c'est tous les servants en fait, ils ont des noms un peu pareils chez Marvel et chez DC. Donc voilà. Non mais en tout cas, il y a un bon gros cliff à la fin et là, il est en train de remuer des choses assez intéressantes, Scott Snyder, sur la mythologie Batman. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc c'est un bail. Du coup, je vais aussi continuer sur le Court of Owls parce que j'ai lu également le Batman et Robin. Donc Batman et Robin, c'est avec Peter Tomasi au scénario et ce n'est plus Patrick Gleason au dessin, c'est Lee Garbett. Mais alors c'est très amusant parce qu'en fait le style est vraiment très très proche. Franchement, j'aurais presque cru que c'était le même dessinateur que pour les numéros précédents.
Ah ouais, à ce point-là.
Ouais, c'est vraiment très très proche. Alors l'histoire, je l'ai trouvée. Bon, aujourd'hui, on va dire que j'aime tout, mais il se trouve que tout ce que j'ai lu m'a plu. L'histoire est vraiment sympa. Donc on suit le Night of the Owls côté Robin, donc on est avec Damian, qui est envoyé également pour aller protéger en fait une des figures importantes de Gotham, à savoir un général en fait qui a un rôle très important dans l'armée et qui donc il se trouve sur Gotham. Et donc il y a un Talon qui est à sa poursuite et Robin est envoyé pour le sauver. Là c'est très sympa parce qu'en fait on a les militaires qui se retrouvent face à un gamin et qui sont en train de lui dire mais t'es qui toi? Tu vas pas nous donner des ordres? Et en fait ils se rendent vite compte que ce gamin a eu quand même une formation assez poussée dans les arts du combat et donc il se met à devenir un peu le général et à guider tous les militaires, donc c'est assez sympa. Puis au niveau des combats, il y a pas mal de têtes qui tombent en fait. Il y a des combats au sabre, c'est vraiment bien fichu, c'est assez tranchant. Et en fait, le fait que les talons soient ni plus ni moins que des morts-vivants, disons qu'ils peuvent se permettre un peu ce qu'ils veulent au niveau violence. Donc il peut se lâcher quoi, Robin. Donc non, franchement, j'ai trouvé que c'était un bon tie-in, vraiment agréable à lire, et puis qui nous montre justement un Damian assez charismatique. Voilà, donc c'est un bail aussi.
D'accord, très bien. Allez, je vais continuer, je vais taper dans le Spider-Man. Et il y a pas mal de sorties de cet univers, en tout cas cette semaine. Je commence par le Avenging Spider-Man numéro 7. Ouh là là, alors là c'était bon. Ouh, c'était du très très grand ça.
Je te sens ironique.
Pas du tout. Moi jamais. Catherine Immonen au scénario, Stuart Immonen au dessin et White von Graf Badger à l'ancrage. Alors déjà, j'ai franchement vu mieux hein, en Immonen. She-Hulk a des est très laide, puisque c'est un team-up entre Spider-Man et She-Hulk. Elle est sur certaines pages franchement très laide. On dirait qu'il a voulu dessiner Conan et qu'il a oublié que c'était She-Hulk et que du coup il l'a colorisé en vert vite fait et qu'il lui a ajouté une paire de boobs. C'est franchement non, c'est j'ai connu Immonen plus inspiré que ça.
Mais alors qu'est-ce qui fait que Spider-Man se met à faire un team-up avec She-Hulk?
Bah en fait ils sont on sait même pas pourquoi ils se retrouvent l'histoire a déjà entamé, ils essayent d'attaquer un espèce de truc qui s'est échappé d'un aquarium. Ça va être le je sais pas la semaine monstre marin.
D'accord.
Et finalement She-Hulk dit qu'elle doit vite partir puisque elle a rendez-vous dans une exposition d'Égypte sur des objets de l'Égypte ancienne. Spider-Man est un fan d'objets de l'Égypte puisqu'il allait au musée toutes les semaines avec son oncle. Il va l'aider. Il se retrouve face à une déesse chat, hein, parce qu'il y a des espèces de culte qui vient essayer de voler une statuette de chat. She-Hulk les empêche de la voler. Elle récupère la statuette et du coup, il lui pousse une queue. Et elle a été choisie pour devenir la servante de cette déesse chat.
Ah oui.
C'est nul. C'est franchement très nul. Ouais. Spider-Man y arrive par un coup, mais franchement pathétique. Enfin, je sais pas, c'est de l'humour vraiment basique. Je dirais que c'est bien, ça va être drôle pour des enfants peut-être de 12 ans. Moi, ça ne rentre pas dans mon humour. Je m'ennuie profondément en lisant ce truc. Pour moi, c'est un gros gros passe quoi. Alors en plus, les dessins d'Immonen qui sont pas beaux.
D'accord, mais c'est bizarre parce que je trouve qu'ils n'ont pas vraiment réussi à trouver une identité à cette série parce que entre des arcs en trois avec des beaux dessinateurs et qui sont importants, d'autres qui sont liés à des events.
Mais pourtant, quand on dit enfin Immonen sur le truc, normalement ça devrait être bon quoi. Ouais, et ouais, là, ouais. C'est juste que je sais pas, on dirait qu'il a dessiné ça en 15 jours quoi.
Ouais, c'est dommage.
Et encore. Enfin, vraiment, c'est très 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 rapide et ça se voit. Donc non, franchement, c'est très dommage. Je vais continuer sur Spider-Man puisqu'il y en a pas mal cette semaine et autant faire un gros bloc. À noter cependant la sortie de Amazing Spider-Man Parallel Lives, un one-shot des années 80 écrit par Jerry Conway et dessiné par Alex Aviouk, qui est réimprimé.
D'accord. Voilà. Tu sais pourquoi ça a été réimprimé? C'est en rapport avec une histoire qui se passe en ce moment?
Non, pas du tout.
Non, c'est juste comme ça, pour le plaisir.
C'est juste comme ça. Il ressort des vieux trucs en ce moment. Il y en avait eu aussi la semaine dernière.
Ouais, bon, c'est pour l'anniversaire quoi donc.
Ouais c'est pour l'anniversaire, ouais, c'est un vieux one shot où on voyait un petit peu la vie de Mary Jane, la vie de Peter Parker à l'époque où ils étaient un petit peu ensemble et qu'ils n'étaient pas encore mariés.
D'accord.
Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas, parce que c'est un truc assez difficile à trouver aujourd'hui, c'est un bon moyen de le trouver, puisqu'il est réimprimé. Du côté donc de Spider-Man, on continue cette semaine avec la sortie du Spider-Man Season 1. C'est écrit par Cullen Bunn et dessiné par Neil Edwards. Alors au niveau des dessins, c'est plutôt pas mal. D'accord. Je l'avouais. Moi, j'aime bien ce qu'il fait Neil Edwards. Bon, c'est un season one, hein. C'est tout.
Ouais,
vie,
j'ai est-ce que Peter Parker se fait piquer par une araignée?
Ouais. Oh, le spoiler.
Ouais. Putain.
Le spoiler.
L'originalité.
Non, mais de toute façon, c'est vraiment juste pour remettre les origines pour des gens qui ne les connaîtraient pas, les relire, elles sont modernisées. Et, celui-ci est pas mal.
D'accord, ok.
Alors autant Daredevil était moyen, les 4 Fantastiques étaient moyens aussi, les X-Men étaient totalement nuls. Là, celui-ci, pas mal du tout. C'est sympathique, ça fonctionne bien. Il y a quelques plans, il y a des passages qui sont très drôles. Il y a même un passage qui m'a fait mourir de rire le moment où il crée son costume. C'est juste ridicule.
D'accord.
Une splash page où c'est ridicule. Et ça m'a fait rire. Donc déjà avoir réussi à me faire rigoler, c'est bien. On a tout un pan donc sur cette carrière qu'il fait, puisqu'on savait très bien que il avait commencé sa carrière en tant que catcheur, et là on explore un peu plus cette partie là.
Ah, ça a dû te plaire cette partie.
En fait on voit pas vraiment faire du catch, hein.
Ah dommage.
On voit plus devenir un petit prodige de la télévision, etc., jusqu'à ce que Jameson détruise sa réputation, et il va se friter avec le Voltour. En fait, voilà, c'est vraiment juste le Amazing Fantasy 15 et puis la moitié du Amazing Spider-Man 1 de repris, mais ça fonctionne bien. Alors par contre, pas de personnages classiques du type Gwen Stacy, Mary Jane, etc., que des personnages inconnus, mais non, franchement, celui-ci est pas mal, une bonne refonte des origines, même s'il n'y a pas grand-chose qui change. Ça se laisse lire, par contre, je trouve que c'est toujours trop cher pour ce que c'est. 19,95 en digital, 24,95 en hardcover. Pour ce que c'est cher. Il y a peut-être 100 pages de BD, mais c'est vraiment trop cher. Puisque c'est quand même du matos que l'on connaît, hein, même si c'est remis au goût du jour. Et à noter que le reprint, c'est là encore une fois une erreur, selon moi, c'est un reprint très récent, puisque c'est le reprint d'Avenging Spider-Man numéro 1.
Ah oui, d'accord, oui,
qui
c'est
est sorti,
vraiment très récent.
Il y a 5 mois.
Ouais.
Donc, c'est difficile de mettre une note à un truc comme ça, je vais dire un check-it, quoi, c'est pas essentiel, mais c'est sympathique, quoi.
Est-ce que tu penses qu'ils vont continuer après, faire un season 2 ou faire une suite à justement à ces nouvelles.
Ben, je pense que ça marchera si vraiment les chiffres de vente ont été bons, je pense que ça continuera.
Parce que j'étais impressionné de voir qu'ils ont prévu d'en faire énormément, quoi. Genre des season 1 sur Doctor Strange, je crois il y a plein de persos comme ça qui vont faire. Ça va faire beaucoup de débuts d'histoire, en fait. Mais...
Je pense que c'est le truc vers lequel on orientera les gens d'ici un ou deux ans en disant si tu veux savoir ce que c'est tel personnage que tu connais pas, va lire le season 1, quoi. Je pense que c'était prévu pour ça. Je pense que c'est aussi prévu pour faire énormément de fric, parce que même si c'est sympathique, en tout cas celui-ci est beau, Neil Edwards, voilà, c'est un débutant. Cullen Bunn l'a bien écrit, il a bien caractérisé Spider-Man, il le tient bien, un Spider-Man adolescent très sympa. Bon, 24,95 pour ça.
Ouais, c'est peut-être un peu cher.
C'est vraiment très cher. Je pense qu'une édition souple à 12, ce serait pas mal déjà. Après, 12 ou 15, quoi. Mais au-delà, pour moi, c'est
presque
du vol. Bon,
on verra quel avenir ça aura pour en France, quoi. Si jamais c'est édité, peut-être que ça sortira en 100%, ce sera peut-être plus raisonnable à ce moment-là.
C'est tout à fait le format, quoi. C'est tout à fait le format. Il y a 100 pages de BD, mais un format, ouais, une dizaine d'euros, c'est ce que ça vaut. Hein. Pour moi, c'est ce que ça vaut. Ça vaut pas plus. 24,95, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Donc, ouais, tout juste un check-it, quoi. Mais au moins, celui-ci est bien. Donc déjà, si vous saviez pas lequel prendre, moi, je vous conseille plutôt Spider-Man et Fantastic Four.
Ok, ça marche.
Voilà, je termine vite fait sur le Spider-Man, puisqu'on a le Scarlet Spider qui est sorti ce mois-ci, avec Neil Edwards au dessin, justement.
Ah, justement, transition toute trouvée.
Bah oui, voilà, c'est beau. Avec Christos, bien sûr, au scénario, et Carl Kessel à l'ancrage. J'en avais teasé la dernière fois que j'ai parlé de Scarlet Spider, c'est Scarlet Spider face à une bombe atomique.
D'accord.
Et une bombe atomique qui est cachée dans Houston. C'est génial. C'est génial. Je m'attendais vraiment à rien, quoi. Surtout que la cover, on voit une bombe qui explose et qui explose avec Scarlet Spider derrière. On pensait peut-être qu'il se ferait déchiqueter par la bombe, etc. Bon, je vous rassure, il n'en est rien.
C'est pas la fin de la série, quoi.
Non, mais en tout cas, c'est vraiment bien. On voit les différences entre, en tout cas, ça continue d'accentuer les différences entre Kane, qui est donc le Scarlet Spider, et Peter Parker. Les méthodes ne sont pas du tout les mêmes. Loin de là. ça rentre dedans. C'est vraiment de l'action non-stop. Et c'est vraiment le genre de truc, tu lis, tu tournes tes pages et t'es limite tu retiens ta respiration, tu te dis mais bon, ça va aller jusqu'où, ça va aller jusqu'où. Et une petite chose super intéressante, c'est que Christios se met tout de suite à la page dans la continuité, puisque une bombe atomique dans Houston, ça passe pas inaperçu quand même, donc forcément on appelle le Shield. Et quand on voit le Shield, on voit les responsables du Shield, à savoir Daisy Johnson, Nick Fury, le nouveau Nick Fury,
Ah d'accord.
Et l'agent Coulson.
Ok, oui.
Et donc, on est vraiment à la page, il est vraiment raccord avec la continuité. Donc non, franchement, très très bien. Très très bon épisode, pour moi, c'est un bail. C'est un pur bail. Et même si on connaît pas la série, on peut très bien lire celui-ci, c'est en un seul une seule histoire, quoi. Il y aura pas de suite, en tout cas, à cette histoire-là, dans le prochain épisode. Et ça permet de tout de suite voir la différence entre Spider-Man et Scarlet Spider, voir que le mec est plus rentre dedans. Et pourquoi pas accrocher à cette série, ça aurait pu être un point 1, quoi.
D'accord, ouais, c'est cool.
Donc très bon épisode, un gros bail pour moi. Et donc ça conclut la partie Spider-Man.
Ok, on va rester quand même chez Marvel. Je vais vous parler de Ultimate Comics X-Men, donc le numéro 11. Donc avec Nick Spencer au scénario et Paco Medina au dessin. Donc juste pour rappel, Nick Spencer, il sera sur le titre jusqu'au numéro 12. Donc après, ce sera Brian Wood qui prendra la main pour un nouvel arc à partir du numéro 13. Et justement, c'est ce qui me fait un peu peur, parce que il reste plus qu'un numéro, et à la fin de ce numéro 11, on se dit, mais comment il va pouvoir finir et raconter toute son histoire juste avec un numéro. Donc là, ce qui se passe, c'est la suite justement de l'attaque des Nimrod sur Camp Angel, où on avait retrouvé Tornade et Colossus. Ça se passe à peu près en même temps que les problèmes qu'il y a justement avec The Ultimates et justement avec Reed Richards, mais en fait, il y a tout l'autre côté des États-Unis qui se retrouve lui attaqué par les Nimrods. Donc c'est vraiment le bordel dans l'univers Ultimate. Les États-Unis, On comprend pourquoi ils disent qu'après il va y avoir une sorte de guerre aux États-Unis. C'est le bordel à la fois avec les mutants et avec les Ultimates. Donc bon, c'est intéressant. Par contre, on sait toujours pas qui est vraiment derrière tout ça. On n'a pas de révélation. On a encore une dernière page où on se dit tiens, mais pourquoi il y a ça ? Et on se dit bah il y a plus qu'un numéro pour résoudre tout ça. Ça va être un peu compliqué. Le truc un peu décevant aussi, c'est que bah ça se lit en 3 minutes. Quoi, il y a très très peu de texte. Mais vraiment très peu de texte. Les dessins sont très beaux, mais ça se lit ultra rapidement, quoi.
C'est donc, toujours décevant quand t'as payé ton truc $3.
Bah ouais, c'est ça, c'est clair. Moi, je dirais un bail parce que bon, bah moi déjà, j'achète tous les trucs Ultimate, et quand on a commencé déjà à lire les 10 premiers, c'est les deux, il reste plus que 2 pour finir l'arc. Bon, faut l'acheter quoi. Mais sinon, quand même un petit peu déçu malgré tout parce que je m'attendais à ce qu'on ait un peu plus de révélations et que l'histoire avance un peu plus. Donc voilà, en train de check-it et un bail quoi.
On va continuer. Je vais retourner vite fait chez Image avec Thief of Thieves numéro 4. Robert Kirkman est au scénario, enfin si on veut, est à l'histoire générale. C'est Nick Spencer qui écrit le numéro, donc sur une idée de Robert Kirkman, avec Sean Martin Brew au dessin. Dans le dernier épisode, on nous avait, le personnage principal recevait la confirmation d'une flic que bah son fils était entre leurs mains et que voilà, il va falloir qu'il coopère s'il veut qu'il arrive pas trop de galères à son fils. Et dans cet épisode, on voit justement le point de vue de son fils et on va comprendre comment il s'est retrouvé en tôle, ce qui a merdé, etc. Avec un petit retour sur le premier épisode. Ça commence à se tenir un peu, mais je trouve ça très lent. Franchement, je trouve ça toujours très lent. Pour moi, c'est juste un check-it, quoi.
D'accord.
En plus, ouais. On a beaucoup de cases où il se passe rien, des pages. Honnêtement, on lit en 5 minutes.
Et est-ce que par rapport, on apprend de nouvelles choses par rapport à ce qu'on apprenait au début ? Enfin, on sent que le scénariste a prévu.
Voilà.
Peut-être qu'en lecture TPB, ce sera peut-être plus agréable, je sais pas.
Oui, oui. Ah oui, en TPB, je pense que ce sera plus facile à comprendre. Surtout qu'on commence à comprendre maintenant pourquoi il a décidé de tout abandonner.
D'accord. Ouais.
Mais franchement, pour moi, ça reste quand même assez décevant. Ça a été vendu comme le super truc méga génial de l'année, la série à lire absolument. Je suis pas forcément d'accord avec ça, quoi. J'attends encore le truc qui va me faire dire « Waouh, cette série est bonne ». Là, je m'ennuie. Presque. Okay. Disons. Me dire « J'ai attendu un mois pour ça », ben non. Je suis pas très content. Donc, tout juste un check-it pour moi.
D'accord. Un petit retour chez DC où je vais vous parler de Superboy et de Legion Lost. Pourquoi je dis les deux titres en même temps ? Parce qu'en fait, c'est vraiment deux titres qui se suivent. La dernière page de Superboy, ils disent de lire le Legion Lost suivant. Donc,
de toute façon, c'est un crossover. Donc,
voilà, c'est vraiment le pur crossover. Donc alors, je vais commencer par Superboy avec Scott Lobdell au scénario, avec Tom DeFalco aussi. Et au dessin, c'est RB Silva, donc le dessinateur habituel de Superboy. C'est la suite du annual dont avait parlé Bunny la dernière fois.
Mais toi donc, aussi, puisque vous l'aviez
fait. Et oui, et moi qui l'avais lu aussi également. Donc là, c'est vraiment un gros battle royale. On a les Teen Titans qui sont associés avec l'équipe de Legion Lost et ils sont en train de combattre l'ancienne équipe de Ravagers, dans lequel on retrouve des personnages parfois qui vont pouvoir rappeler des souvenirs à certains, dont un certain Warblade qui arrive. Donc il y a également Rose qui fait partie de cette équipe là. On retrouve aussi plein de personnages intéressants dans l'équipe des Teen Titans. Là maintenant on peut le dire parce qu'il y a plus de spoil, mais on a déjà eu Terra qui a été présenté, on a eu aussi Beast Boy qui apparaît maintenant dans l'équipe.
Ouais, donc on revient vraiment aux fondamentaux, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais là vraiment le truc, c'est dans ces deux numéros là dont je vais parler, c'est vraiment t'as 40 personnages quoi qui se fight. tu vas un petit peu partout, tu bondis de combat en combat. C'est très sympa à lire. T'apprends des petites choses, pas mal de révélations. Là, dans Superboy, on apprend pas mal de choses sur Kid Flash, en fait, sur son histoire dans le futur, puisque les gens de la Légion le connaissent. Et a priori, il n'était pas si gentil que ça. Il se trouve que Kid Flash, lui, il a perdu la mémoire, donc il se rappelle plus de ce qu'il a fait. Donc là, il se retrouve un peu paumé. Là, il comprend pas pourquoi justement la Légion lui saute dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. Le combat contre Warblade est pas mal. Voilà, c'est vraiment divertissant. Moi, j'ai bien aimé. Les dessins sont toujours aussi chouettes. Donc pour moi, c'est un bon event. Et donc après, on enchaîne directement la dernière page de Superboy avec Legion Lost, qui lui, en fait, il y a le retour de Fairchild qui revient. donc un petit peu de Jean Sortin et compagnie, donc encore des personnages en plus, ils se battent contre justement le chef de l'organisation Nowhere, qui est donc ce fameux Harvest, qui est hyper hyper fort. Donc là ils en chient quoi, même Superboy il en chie. On a la Légion là qui est un peu plus mis en avant du coup vu que c'est leur titre, et on a un des personnages de la Légion qui à la fin commet un acte un peu très héroïque mais peut-être un peu suicidaire. Donc voilà, c'est moi j'ai trouvé ça chouette. Il reste plus qu'un numéro en fait, ce sera celui de Teen Titans qui sera je crois dans 2 semaines, et le titre Ravagers après qui fera la fin de cet arc en fait, puisque il naîtra de la fin de l'arc. Une nouvelle équipe qui sera les Ravagers, voilà. Donc moi qui avais commencé à lire cet arc, pour moi c'est un bail. Je pense que ça fera vraiment une bonne histoire quand elle sera recueillie en TPB. Si vous aimez voir plein de persos se battre, ça va vous plaire quoi. Et puis les dessins là dans Legion of Lost sont meilleurs que dans le précédent numéro, c'était pas le même dessinateur. Je sais plus si j'ai dit qui était au dessin, alors je vais vous le dire.
Non, je crois que tu n'as pas donné
les ouais. Alors c'est Tom DeFalco qui fait le scénario là sur celui-là, et au niveau des dessins, c'est Pete Woods. Donc c'est beaucoup plus sympa que le précédent numéro. Donc voilà.
Non, Pete Woods, ça dépend pourtant des fois. Hein. Il y a des fois, moi, Superman, j'ai pas trouvé très très bon, par exemple.
Bah là, c'est pas trop mal, hein. Franchement. Il y a même des scènes à la fin. À part Fairchild, qui ressemble pas du tout à son design qu'elle avait dans Superboy, ça c'est un peu décevant. D'ailleurs, il y a des moments où on la reconnaît pas du tout. Sinon, pour le reste, les autres persos, je trouve ça assez bien fait, et les scènes d'action sont bien pêchues. Voilà, donc un bail. Et c'est ma dernière review de la semaine.
Ok. Mais moi, je vais terminer avec Marvel Zombies Destroy. Non, je déconne. Non, je ne lis pas Marvel Zombies. Mais bon, voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a une nouvelle mini-série Marvel Zombies qui est sortie cette semaine. Non, plus sérieusement, la sortie du New Avengers numéro 26 qui est tie-in à AVX. Parce que nous n'avions pas encore parlé d'AVX cette semaine.
Eh oui. Mon Dieu. C'est dingue, hein. On peut faire des parler comics et pas parler d'AVX.
Ben non. Puisque je vais en parler maintenant. C'est Brian Michael Bendis au scénario, Mike Deodato qui est au dessin. C'est la suite de cette partie plus branchée sur Iron Fist et ce lien entre Iron Fist et la Phoenix Force.
Le Phoenix Fist, on avait dit.
J'ai toujours un truc ignoble qui me vient en tête à chaque fois que j'entends ça. On va en savoir plus sur cette gamine qui est censée être la nouvelle Iron Fist et qui peut mêler aussi le pouvoir du Phoenix, qui est bien sûr une rousse aux yeux verts.
Bien évidemment. Je sais pas si ils ont les rousses avec le Phoenix, c'est un peu bizarre quand même.
Encore une fois, là on nous montre, là en tout cas sur cette cover, on a, enfin la semaine dernière c'était pareil, hein. On avait Iron Fist et là aussi on a Iron Fist, on ne le voit absolument pas de tout l'épisode. J'ai horreur des couvertures comme ça. C'est franchement très sympa. Bon, je suis toujours un petit peu perplexe de cette relation entre Iron Fist et la Phoenix Force, mais ça se laisse lire, et en plus il y a quand même un lien avec la série Shield d'Hickman. Je n'en dirai pas plus.
D'accord.
C'est vraiment bizarre. En tout cas, il faut savoir que l'éducation de la fille, son entraînement au combat, etc., et le fait qu'elle va devenir Iron Fist, enfin une nouvelle Iron Fist, se passe il y a déjà plusieurs années. Donc normalement, elle est arrivée à maturité au moment du crossover. Donc on verra si elle aura un lien par la suite dans les pages d'AVX lui-même.
Et est-ce que l'on voit Hawkeye dans ce numéro ?
Pas du tout.
Non, parce que bon, Hawkeye, maintenant, vu que c'est Bucky... Moi, je sais que Bunny est pas là, mais il faut que je le dise quand même. Et comme je sais pas si tu vas parler de Marvel encore après, il fallait que je le dise maintenant.
Oui, il reste Marvel. Mais oui, et en plus, j'allais parler d'Hawkeye.
Ah mince, bah, j'aurais dû attendre, alors. Tant pis.
Non, mais au moins, rendons-lui hommage. Et ayons une seconde de silence pour son PC décédé. Voilà. Non, parce qu'une minute, ça va être un peu long.
Oui, sur un podcast.
Ça, c'est un petit peu dérangeant. Donc, espérons que son PC ne soit pas mort, surtout. Bref, donc c'est un bail, hein, pour celui-ci, si on aime bien le côté Iron Fist, d'autant plus, mais c'est très beau, l'histoire se tient, donc c'est plutôt pas mal pour le moment, on verra après les ramifications avec AVX lui-même.
Tant qu'il n'y a pas Luke Cage dedans, ni...
Mais honnêtement, on ne voit aucun Avengers, ça s'appelle New Avengers, mais on ne voit aucun Avenger.
Hein. D'accord, ok.
Mais je vais terminer toujours avec du Avengers, par contre, et toujours avec du Bendis, le Avengers Assemble numéro 3. Bendis donc au scénario, Mark Bagley est au dessin avec Danny Mickey à l'ancrage. On est toujours en plein combat contre le Zodiac, hein, qui venait de débarquer sur l'hélice carrière du Shield. Bah, ce sont les personnages du film, hein, ni plus ni moins, puisque on a toute la bonne clique, hein, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow et Hawkeye.
Mais alors du coup, c'est pas du tout en lien avec AVX, hein, tout ça. Ça se passe à un autre.
Ah non,
autre
ça
période,
se passe complètement
hein.
ailleurs.
D'accord.
On sait pas quand d'ailleurs.
On sait pas quand, mais.
On sait pas quand. Ils sont toujours donc face à ce nouveau Zodiac. On va
Et
en apprendre un petit peu plus. Oui.
Est-ce qu'il y a le Nick Fury, le nouveau Nick Fury dedans ou
Non, non, non. On voit
non,
pas du tout Nick Fury. Par contre, on voit Daisy Johnson.
D'accord.
Donc c'est à peu près dans la continuité. Bon, les dessins de Begley sont un petit peu, sont un petit peu en dessous, quoi. Franchement, par rapport à d'habitude, c'est un petit peu en dessous. Il y a notamment deux plans où on a des têtes qui sont vraiment pas belles. Je pense aussi que ça peut venir de l'ancrage de Danny Mickey, puisque c'est pas, il n'est pas habitué à travailler avec Mark Begley.
Ouais.
Bon, non, franchement, ça se lit. Il y a beaucoup de paroles, mais ça se lit relativement vite, surtout que c'est que de l'action. Reste cette dernière page où on apprend qui est derrière ce nouveau Zodiac. Alors ça, c'est la grosse révélation. Et ben franchement, enfin là comme ça, moi je dirais ben c'est pourri.
D'accord, ok.
Je veux dire,
c'est pas la révélation qui te fait dire je vais lire absolument le suivant quoi.
Bah si, je vais lire le suivant pour savoir pour essayer de comprendre pourquoi, mais j'ai envie de dire mais qu'est-ce qui vient foutre là ce personnage, il a rien à faire là quoi. Assez mitigé, encore une fois, c'est un check-it tout juste, principalement pour cette révélation, sinon ce serait un gros pass. Donc à la rigueur, jeter un petit coup d'œil. Ben c'est tout pour cette semaine.
Bah ouais, mais on a parlé de pas mal de comics hein, quand même.
Ouais, puis on aura fait un épisode relativement court. Là où je vais m'amuser, c'est pour le minutage. Je pense que je ne minuterai pas tout, juste les grosses parties. Alors, j'allais dire, on se retrouve la semaine prochaine. Oui et non. C'est-à-dire que ça va être un peu bizarre. King Ad et moi sommes à la Capao la semaine prochaine.
Capao.
Donc nous ne pourrons pas enregistrer de podcast. Mais le podcast sera assuré la semaine prochaine par Nono et Bunny, normalement. S'il arrive bien à récupérer son PC.
Bah j'espère, oui. Sinon, ce sera un peu compliqué. Nono en monologue.
ça va être un peu désagréable, je pense, d'avoir un monologue de qui que ce soit, d'ailleurs.
Oui, il faudra peut-être qu'il prenne deux voix, sinon il peut imiter, je sais pas. Est-ce qu'il est fort en imitation, Nono? Il sait,
Enfin, en tout cas, vous aurez un podcast la semaine prochaine. Je ne serai pas là, exceptionnellement. C'est vrai que ça va faire bizarre, un weekly sans moi.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà eu un podcast,
oui,
qui n'avait pas
oui.
participé.
La semaine dernière, c'est vrai, en discutant après l'émission, il y avait déjà eu un weekly où je n'étais pas là.
Donc voilà.
Eh bien, allez fouiller. Cherchez. Réécoutez tous les weekly. Allez, je vous donne un indice, c'était vers le début. bref, du coup, donc la semaine prochaine, pas de Kinghead et pas de moi. C'est bizarre comme phrase dit comme ça. Mais rassurez-vous, nous vous ferons des petits updates. Enfin, en tout cas, nous allons essayer de vous faire un maximum d'updates de la CAPAO en fonction de la connexion que l'on pourra trouver. Surtout. C'est surtout ça. Bref, comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site, bien évidemment. Et puis, tous les anciens épisodes sur iTunes. Et si vous voulez nous envoyer un petit mail avec une question ou avec quoi que ce soit, nous le lirons à l'antenne. L'adresse, c'est podcast@comiccity.fr. Sur ce, nous nous quittons.
Bah oui, c'est dur hein, sans Bunny, pour nous donner un mot de la fin ou un truc comme ça. Enfin bon,
je dois pouvoir trouver ça dans un carton là à côté de moi. Un mot de la fin. Ah, merde.
c'est slogan des 80 ou les trucs comme ça.
C'est toujours quand tu cherches l'inspiration que tu ne la trouves pas. Bref, je dirais donc.
Malamar, c'est Malabar. Ça, on l'a déjà fait, peut-être, je sais pas.
Oh, mais soyons simples. Soyons raccord avec l'actualité et dirons simplement Kapow.
Kapow!
À la semaine prochaine.
Salut!